Éphèse, Smyrne et Pergame. Lorsque Jean, qui, à la vue de la glorieuse personne du Christ, était tombé à ses pieds comme mort, eût été ranimé par l'attouchement de la main bénie et par les paroles de grâce du Seigneur, Jésus lui dit, « Écris les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après celles-ci. » Les choses que Jean avait vues, c'était Christ dans sa gloire comme juge. Celles qui sont, c'est ce qui se rapporte à l'Église, et elles durent encore et dureront jusqu'au retour du Seigneur pour chercher les saints. Celles qui doivent arriver après celles-ci sont des événements qui auront lieu ensuite sur la terre jusqu'à l'apparition en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, le Seigneur fait écrire par Jean des lettres aux anges, c'est-à-dire à ceux qui représentaient devant lui les sept églises d'Asie. Rappelons-nous que ces églises, ou plutôt l'état dans lequel le Seigneur les voit, représentent divers états successifs de l'Assemblée universelle sur la terre. À chacune de ces assemblées, le Seigneur se présente sous des traits particuliers, en rapport avec leur état. Il indique qu'il en a pris connaissance par ses mots expressifs « Je connais tes œuvres » ou bien encore « Je connais ta tribulation » ou « Je sais où tu habites ». Quelle chose solennelle que d'avoir affaire à celui auquel rien n'échappe, ni le bien, ni le mal. Ensuite, le Seigneur reconnaît et indique le bien qui se trouve en chacune des assemblées, mais il signale aussi le mal qu'il y voit. Et d'après cela, il distribue à chacun le blâme ou la répréhension, l'exhortation ou l'encouragement. Pour deux d'entre elles, il n'a point de parole de reproche. C'est Smyrne dans la tribulation et Philadelphie dans la faiblesse. Toutes deux ont été fidèles. Puis Jésus exhorte celui qui a des oreilles à écouter ce que l'Esprit dit aux assemblées. Cela, par conséquent, concerne individuellement chacun de nous. Et enfin, à ceux qui auront vaincu, c'est-à-dire qui seront restés fidèles au milieu des difficultés, des pièges et des combats, le Seigneur donne les promesses les plus encourageantes. Une note en bas de page, dans les épîtres aux quatre dernières assemblées, l'exhortation à écouter suit la promesse aux vainqueurs. C'est que, dans les trois premières, l'exhortation est pour tous dans l'ensemble de l'Église, et dans les dernières, celui qui écoute est à part de l'ensemble. Reprise de l'esquisse. La première assemblée à laquelle le Seigneur s'adresse est celle d'Éphèse. Il se présente à elle comme ayant l'autorité suprême dans l'Église et y prenant connaissance de toutes choses. Il avait beaucoup de choses à louer en elle, de ces choses qui montrent la piété, la fidélité et le dévouement. « Je connais tes œuvres, dit-il, et ton travail et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants, et tu as éprouvé ceux qui se disent d'apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, et tu as patience, et tu as supporté des afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé. » À cela, le Seigneur ajoute plus loin, « Tu as ceci, que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. » Ceux qui faisaient de la grâce un prétexte pour pécher, lesquels moi aussi je hais. Quel beau tableau de l'état d'une église! Que manquait-il donc à ces chrétiens? Ah, l'œil scrutateur du Seigneur va bien au-delà des œuvres qui se voient. Il sonde le cœur. Ce qu'il veut, c'est le cœur, les affections, et c'est le cœur qui faisait défaut à Éphèse. « J'ai contre toi, dit Jésus, que tu as abandonné ton premier amour. » Voilà ce qui leur faisait défaut, et c'était bien grave. L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens, « Quand je distribuerai en aliment tous mes biens, et que je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. » 1 Corinthiens 13, verset 3. Eh bien, tel était l'état intérieur à Éphèse, et c'était le grand mal, le premier pas dans le déclin et vers la chute. Christ a aimé l'assemblée, Éphésiens 5, verset 25, et n'est-il pas juste de l'aimer en retour? C'est ce que son cœur désire de nous, et, sans cela, les plus belles œuvres ne le satisfont pas. La gravité de cet état nous est montrée par l'exhortation du Seigneur. Souviens-toi d'où tu es déchu, et repens-toi, et fais les premières œuvres, c'est-à-dire les œuvres qui étaient le fruit de l'amour. À cela, le Seigneur ajoute une menace bien propre à faire réfléchir. Autrement, je viens à toi, et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes. Cela veut dire que l'Église cesserait d'être reconnue du Seigneur, qu'elle ne serait plus un témoignage pour lui dans le monde. Mais à quel moment de l'histoire de l'Église s'applique ce qui est dit à Éphèse? C'est à l'époque qui avait déjà commencé quand Paul vivait encore, alors qu'il écrivait « Tous cherchent leurs propres intérêts, non pas ceux de Jésus-Christ » Philippiens 2, verset 21. Et à la fin de sa carrière, tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi, de Timothée 1, 15. Le mal s'était accentué quand Jean eut ses visions, et le Seigneur dut donner à l'Église un sérieux avertissement. Et cet avertissement a toujours sa valeur pour nous. La racine de tout le mal qui a amené la ruine de l'Église est l'abandon du premier amour, et la conséquence sera que, dans un temps peut-être bien rapproché de nous, la lampe sera ôtée, l'Église sera rejetée. Ainsi, la première période de l'histoire de l'Église est caractérisée par un état extérieur de piété, de fidélité et de zèle que le Seigneur reconnaît, mais au fond il y a l'abandon du premier amour, de ce qui est le seul vrai ressort des œuvres selon Dieu. Le Seigneur termine en s'adressant au vainqueur, c'est-à-dire à celui qui aura conservé dans son cœur le premier amour, à celui pour qui le Seigneur Jésus n'aura pas cessé d'être le suprême et unique objet de ses affections. Il lui promet ce qu'il y a de plus précieux pour un cœur qui aime, c'est la jouissance de la présence et de l'amour de la personne aimée. À celui qui vaincra, dit Jésus, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Là, il n'y aura plus de chute, ni de ruine, ni de déclin dans l'amour. Tout y sera parfait à toujours. Demandons d'être gardés dans l'amour de Jésus, et nous jouirons dans l'éternité de la vie et des délices du paradis de Dieu. La seconde époque dans l'histoire de l'Église nous est montrée dans l'assemblée de Smyrne. C'est la période des persécutions que le Seigneur permet pour ramener les cœurs à lui par l'affliction. Mais pour encourager ses saints dans la souffrance, il se présente d'abord à eux dans le caractère divin. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'était leur dire, « Le Seigneur en qui vous croyez et pour qui vous souffrez est le Dieu Tout-Puissant d'éternité. Ayez bon courage. » Puis il leur rappelle qu'il a été un homme sur la terre et que, comme tel, lui aussi a souffert la tribulation et la mort et qu'il est maintenant vivant, qui a été mort et qui a repris vie. Quelle consolation pour les pauvres chrétiens dans l'épreuve, car, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Et voici ce que dit le Seigneur à ses saints de Smyrne, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et l'outrage de ceux qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan. Nous voyons ce qu'ils avaient à endurer, la tribulation, c'est-à-dire la persécution, et nous avons déjà pu voir précédemment combien terribles les souffrances de la persécution pouvaient être. Nous en aurons encore des exemples. Ensuite, c'était les peines, les privations et le mépris qui s'attachent à la pauvreté. Et comme nous l'avons vu en particulier dans l'histoire de Paul, c'était les Juifs, ceux qui se vantaient d'être le peuple de Dieu, qui étaient les plus acharnés contre les chrétiens, 1 Thessaloniciens 2, versets 14 à 16.
« Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des assemblées de Dieu qui sont dans la Judée et dans le Christ Jésus. Car vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes choses qu'elles ont aussi souffertes de la part des Juifs, qui ont mis à mort et le Seigneur Jésus et les prophètes, et qui nous ont chassés par la persécution, et qui ne plaisent pas à Dieu, et qui sont opposés à tous les hommes, nous empêchant de parler aux nations, afin qu'elles soient sauvées, pour combler toujours la mesure de leurs péchés. Mais la colère est venue sur eux au dernier terme. »
Mais quelle consolation pour les persécutés! Le Seigneur connaissait tout ce qu'ils souffraient, son regard était sur eux, et son cœur sympathisait avec eux. Au milieu de leurs souffrances, de leurs privations et des outrages déversés sur eux, Jésus était avec eux pour les soutenir. Ils étaient ainsi riches d'une richesse que nul ne pouvait leur ravir, riches des richesses éternelles de Dieu. Lisez Romains 8, versets 17-18.
Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée.
Et versets 35-37.
Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée? Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi nous sommes mis à mort tout le jour, nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Déjà, du temps de Jean, les chrétiens avaient souffert, mais leur tribulation n'était pas finie. Le Seigneur leur en annonçait d'autres. « Ne crains en aucune manière, dit-il, les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. » On voit ici quel est celui qui était derrière les persécuteurs et les faisait agir. C'était le diable, l'adversaire de Christ, celui qui est meurtrier dès le commencement. Il rôdait comme un lion rugissant pour dévorer les chrétiens, Pierre 5:8. Mais de la part de Dieu qui permettait ces souffrances, c'était l'épreuve de leur foi et de l'amour pour Christ, et c'était destiné à rattacher leur cœur à ce précieux Sauveur. 1 Pierre 5, verset 8.
Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer.
1 Pierre 1, verset 6 à 9.
En quoi vous vous réjouissez, tout en étant affligé maintenant pour un peu de temps, par diverses tentations, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée tournée à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez, et, croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi, le salut des âmes.
Et de notre côté, le Seigneur qui tient tout entre ses mains leur annonce que leur épreuve sera limitée. Vous aurez une tribulation de 10 jours. On a pensé que ces 10 jours désignaient les 10 grandes persécutions générales qui sévirent contre les chrétiens jusqu'au règne de l'empereur Constantin. Nous en reparlerons si le Seigneur le permet. Mais ce qui est précieux, c'est de voir que Jésus tient tout entre ses mains et que même les souffrances qu'endurent les siens sont pour leur bien. On peut avoir à souffrir jusqu'à la mort, et combien de milliers et de milliers de saints l'ont enduré après des tortures sans nom. Mais ce qui est devant le chrétien, ce qui soutenait les martyrs dans leurs souffrances et illuminait leur mort, c'était la perspective de la couronne de vie, d'une vie glorieuse et éternelle avec leur bien-aimé Sauveur. « Celui qui vaincra, dit Jésus, n'aura point à souffrir de la seconde mort. » Apocalypse 20, versets 4 à 6. Après avoir encouragé l'assemblée qui était à Smyrne et dont l'état figure la période des persécutions que traversa l'Église chrétienne, le Seigneur s'adresse à l'assemblée qui était à Pergame. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Pergame écrit « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, l'épée aiguë qui sort de la bouche du Seigneur et sa parole. » Hébreux 4, verset 12. « Soit qu'elle pénètre et juge le cœur et la conscience, soit qu'elle combatte les ennemis de la vérité, soit qu'elle frappe de mort les rebelles. »
Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur.
Ici, le Seigneur se montre armé de cette épée parce qu'à Pergame, il y avait des personnes qui enseignaient des erreurs et auxquelles il fallait s'opposer. Et l'arme du chrétien pour combattre l'erreur, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, Éphésiens 6, verset 17. Le Seigneur dit ensuite, « Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. » Non seulement le Seigneur connaît les œuvres que l'on fait, mais il sait où l'on habite, dans quel milieu on se trouve, avec quelle société on est mêlé. Et c'est une chose sérieuse. Habiter, ce n'est pas passer, c'est rester. Et l'Église habitait où était le trône de Satan. C'est le milieu où elle restait. Satan a donc un trône, une autorité, il gouverne donc. Et où est-il dressé ce trône? Dans le monde. Satan est le chef de ce monde, a dit le Seigneur. Le monde a chassé Christ et l'a mis à mort, et depuis ce moment, Satan gouverne le monde. Jean 16, verset 11 et 14, verset 30.
De jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient, et il n'a rien en moi.
Il le domine par le moyen des convoitises et des passions. 1 Jean 2, verset 16.
Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde.
Éphésiens 2, versets 2 et 3.
Dans lequel vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi nous avons tous conversé autrefois, dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées, et nous étions, par nature, des enfants de colère comme aussi les autres.
Or, le chrétien n'est pas du monde. Jean 17, verset 14.
Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Jean 15, verset 19.
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde, à cause de cela le monde vous hait.
Comme Christ n'en est pas. Il doit traverser ce monde comme un étranger et non pas y habiter. C'était donc une position fâcheuse et une mauvaise chose pour l'Église de Pergame que d'habiter où était le trône de Satan. Elle se trouvait ainsi associée au monde. Mais le Seigneur pouvait aussi reconnaître quelque chose de louable à Pergame. Et tu tiens ferme mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours dans lesquels Antipas était mon fidèle témoin qui a été mis à mort parmi vous, là où Satan habite. Le nom du Seigneur exprime tout ce qu'il est dans sa personne adorable, vrai Dieu et véritablement homme. Le Fils unique et éternel de Dieu est le Sauveur. Tenir ferme son nom, c'est garder dans son cœur et confesser de bouche tout ce qu'il est. Ne pas renier la foi, c'est demeurer fidèle aux enseignements de la parole. C'est ce que l'Église de Pergame avait fait, même dans la persécution où Antipas avait donné sa vie en témoignage pour le Seigneur. Qui était Antipas? Nous ne savons rien de plus sur son compte. Mais quel glorieux titre Jésus lui donne, mon fidèle témoin. Le Seigneur le connaissait, c'était assez. Il fut mis à mort pour Christ, et Christ lui a donné la couronne de vie. Puissions-nous aussi, dans notre faible mesure, être un fidèle témoin du Seigneur. Mais remarquons que le Seigneur répète parmi vous, là où Satan habite. Il veut appeler l'attention de l'Église sur sa dangereuse position. L'Église habitait là où Satan habitait aussi. C'était parmi eux. Quel danger que ce contact! Aussi, le Seigneur trouve-t-il des choses très répréhensibles à Pergame. « J'ai quelque chose contre toi, dit-il. C'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles, et qu'ils commissent la fornication. Ainsi tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes pareillement. Nous savons qui était Balaam. C'était un homme qui prétendait à la qualité de prophète, et qui avait une certaine connaissance de Dieu, mais dont le cœur était rempli de l'amour de l'argent. 2 Pierre 2, verset 15.
Ayant laissé le droit chemin, ils se sont égarés, ayant suivi le chemin de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire d'iniquité.
Pour un gain, il s'était mis au service de Balak afin de maudire les enfants d'Israël. Mais Dieu ne le lui permit pas, au contraire, il fut forcé de bénir ce peuple. Que fit-il alors? Il donna à Balak le conseil d'entraîner les Israélites dans des fêtes païennes, de se mêler avec le monde, afin d'attirer sur eux le jugement de Dieu. Voilà ce que le Seigneur voyait dans l'église de Pergame. De faux docteurs, semblables aux faux prophètes, qui enseignaient aux chrétiens à s'associer au monde, et dont les doctrines tendaient à rétablir l'idolâtrie sous une forme nouvelle. En même temps, d'autres personnes dans cette église tenaient la doctrine des Nicolaïtes, dont le Seigneur haïssait les œuvres. C'étaient, sans doute, ceux dont parle Jude dans son épître, en disant que certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, verset 4. Jean qui faisait de la grâce un prétexte pour pécher impunément. On tolérait de tels gens, on les recevait même dans les festins et les agapes. Jude 12, 2 Pierre 2, 13.
Ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes, faisant des festins avec vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes. 2 Pierre 2, 13. Recevant la récompense de l'iniquité, estimant plaisir les voluptés d'un jour, des taches et des souillures, s'abandonnant aux délices de leur propre tromperie, tout en faisant des festins avec vous.
L'Église s'était associée au monde, et il n'y avait plus de séparation d'avec le mal. Triste résultat du fait d'habiter là où Satan habite. Mais le Seigneur avait l'œil sur ce fâcheux état de choses, et voilà pourquoi il adresse à l'Église un sérieux avertissement. Repens-toi donc, autrement je viens à toi promptement, et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. Comprenons ce que veut dire ce « repens-toi ». Le bien qui se trouvait à Pergame n'excusait pas le mal que l'on avait laissé s'introduire. On ne peut racheter le mal par le bien. L'ange de l'assemblée n'aurait pas pu se justifier en disant « Mais tu vois, Seigneur, j'ai tenu ferme ton nom, et je n'ai pas renié ta foi. Ni non plus, ce n'est pas ma faute si je suis dans le monde. Il faut bien y vivre. Ni non plus, si des gens enseignent de mauvaises doctrines, je n'y puis rien. Non, rien ne nous excuse de faire le mal, et si nous y avons été entraînés, il faut écouter le Seigneur et se repentir, c'est-à-dire juger tout ce mal et s'en détourner. L'ange de l'assemblée devait cesser d'habiter où Satan avait son trône, rompre avec le monde, reprendre sa position d'étranger ici-bas et repousser résolument les faux docteurs et leurs enseignements. Voilà ce que veut dire « repens-toi ». Et comment le pouvons-nous ? Par la parole ? Parce que, quand elle demeure en nous, nous sommes forts et rendus capables de vaincre le méchant et d'échapper au monde. 1 Jean 2, versets 14 et à 16.
Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le méchant. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde.
1 Jean 5, versets 4 et 5.
Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu.
Et si l'on ne se repent pas, alors le Seigneur prend lui-même en main l'épée du jugement. Cela nous regarde aussi, car le Seigneur dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui écoute la voix de l'Esprit et s'y attache sera vainqueur. Et voici ce que le Seigneur lui promet. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou un nouveau nom écrit que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Rappelons-nous que la manne était le pain que Dieu envoyait du ciel pour nourrir son peuple dans le désert. Mais la manne qui nourrissait le corps n'était qu'une figure d'un pain bien plus excellent, du pain de l'âme, je veux dire de Christ. Il disait lui-même, « Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Moi, je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Jean 6, versets 32 à 35, 48 et 51. La manne cachée était celle que, par l'ordre de Dieu, on avait mise dans une cruche d'or et que l'on gardait dans le sanctuaire devant Dieu en souvenir de ses soins dans le désert. Hébreux 9, verset 4.
Ayant l'encensoir d'or et l'arche de l'Alliance entièrement couverte d'or tout autour, dans laquelle était la cruche d'or qui renfermait la manne, et la verge d'Aaron qui avait bourgeonné, et les tables de l'Alliance.
Exode 16, versets 33 et 34.
Et Moïse dit à Aaron, « Prends une cruche, et mets-y plein un omer de manne, et pose-la devant l'Éternel pour la garder pour vos générations. Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, Aaron la posa devant le témoignage pour être gardée. »
Christ, le pain de vie, est maintenant dans le ciel dont le sanctuaire était la figure. Il est auprès de Dieu, caché à la vue du monde. Mais c'est le même Christ qui était sur la terre, et en pensant à tout ce qu'il était ici-bas, en bonté, en douceur, en pureté, en humilité, en patience, en amour, en le goûtant, nos cœurs sont nourris et fortifiés, et c'est bien là ce qu'il faut pour vaincre le monde. Un combattant a besoin de nourriture. Voulez-vous être un bon soldat de Jésus-Christ? Nourrissez-vous de lui. Et qu'est-ce que le caillou blanc? Dans certaines élections en Grèce, on écrivait sur un caillou blanc le nom de celui à qui l'on donnait son suffrage. Le caillou blanc est donc un signe secret de l'approbation du Seigneur. Paul n'avait-il pas cette approbation quand il pouvait dire « Je sais qui j'ai cru, le Seigneur s'est tenu près de moi ». Oui, il est précieux d'entendre la voix secrète du Seigneur nous dire « Cela va bien ». Il ne peut approuver que celui qui combat et vainque pour son nom. Quant à un nouveau nom, n'est-ce pas ce qui indique quelque chose d'intime dans les affections du Seigneur pour nous? Quand nous aimons quelqu'un, ne lui donnons-nous pas souvent un nom qui nous est doux et que nous réservons pour lui seul, un nom que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit? Voilà donc la récompense du vainqueur. Christ se donne à lui comme nourriture céleste pour le fortifier. Il lui fait part de son approbation pour l'encourager et l'introduit dans son intimité pour réjouir son cœur. Quelle grâce! Ne voulez-vous pas être de ces vainqueurs? Maintenant, si l'on demande à quelle période de l'Église correspond ce qui est dit de Pergame, c'est celle qui suivit les persécutions. La dernière persécution générale, la plus terrible de toutes, eut lieu sous l'empereur Dioclétien et dura environ 10 années, de l'an 303 à 312. Nous en reparlerons. Après sa mort, il y eut bien des guerres entre ceux qui aspiraient à l'Empire. Ce fut Constantin qui l'emporta sur ses rivaux. Il avait toujours été favorable au christianisme et enfin l'embrassa, extérieurement du moins, car on doute s'il fut réellement converti. Depuis ce moment, les chrétiens, au lieu d'être persécutés, furent en faveur auprès du pouvoir civil, et le paganisme perdit son puissant appui. L'empereur soutint et protégea l'Église, et l'Église s'appuya sur lui. Elle avait fait alliance avec le monde. Nous aurons plus tard l'occasion de parler de tout ce qui s'introduisit ainsi au milieu d'elle. Pour le moment, continuons à écouter ce que le Seigneur, par l'Esprit, disait aux assemblées.